Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, ils sont gardiens de musées et ils vous racontent. C'est jusqu'à 14h sur France Culture. Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est un mot que j'apprécie pas trop, gardien de musée. On dit agent d'accueil de surveillance. On se sent moins frustré. On n'est pas là pour garder, on est là pour accueillir le public. Donc on ne garde pas une prison comme on garderait un musée.
Pour beaucoup, beaucoup de gens se sentent un peu, ont du mal à vivre leur statut d'agent d'accueil dans la mesure où ils ont l'impression d'être inutiles à la société. Et ils aimeraient bien faire plus, quoi, ou apporter leur pierre à la machine de la vie, quoi, en fait. Et, agent d'accueil, c'est pas reluisant, quoi, en fait. Hein. Tout au long de la journée, il faut garder une certaine contenance. Et c'est vrai que des fois, on a envie d'allonger les pieds, de bailler un petit peu, mais bon, voilà, quoi. On doit toujours. On représente aussi le musée, donc c'est assez épuisant de garder toujours. Faut toujours être en représentation. Et il y a une anecdote qui dit quand tu es agent d'accueil en salle, surtout ne t'assois jamais, sinon tu vas te réveiller 40 ans plus tard.
À quoi servent les agents d'accueil et de surveillance ? À qui sont-ils utiles ? Aux personnes qu'ils accueillent ou aux œuvres qu'ils surveillent ? Et des deux, lesquels sont les moins ingrats ? Que garde le gardien du musée, si ce n'est une certaine contenance, un certain maintien qui le maintient sur le qui-vive, qui le conserve en somme ? À quoi pensent l'agent et le gardien assis sur leur chaise ou faisant les 100 pas dans les salles des musées, des maisons d'écrivains et dans les jardins d'artistes ? À quoi rêvent-ils et de quoi regardent-ils seulement les toiles qui sont devant leurs yeux depuis bien des années? Les aiment-ils au moins un peu, les visiteurs venus du monde entier tourner autour du baiser de Rodin? Mariama, 44 ans, elle travaille à la maison de Victor Hugo depuis 12 ans pour communiquer avec les visiteurs. Elle a appris 4 langues toute seule, dont la langue des signes. Elle est en train d'apprendre le japonais. Christophe, lui, vient et repart à pied du musée Rodin où il travaille 1 heure de marche aller-retour. Et Gérard, enfin, n'a connu que le musée de la croix. Parfois, il trouve les journées longues, parfois courtes. Ce qu'il aime, c'est regarder les japonaises qui font des petits pas de souris sur la pointe des pieds et glissent invisibles, comme lui, dans les salles du musée. 3 témoins qui observent, 3 parcours de musée. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre.
Bonjour monsieur, 2 places, s'il vous plaît.
Est-ce que vous avez des tarifs réduits, monsieur?
Ben, comme tous les vieux, enfin, je ne sais pas si
senior.
C'est... Si, ça va. Bon.
Ben, je vais demander 11 euros. Pour...
Senior.
11 euros, ben, c'est ce qu'a dit monsieur.
11 euros chacun?
Non, pour les deux.
Oh Dieu, et puis quoi encore?
Pourriez-vous éventuellement laisser votre sacoche, monsieur, s'il vous plaît?
Avec plaisir, pas trop.
Merci bien. Tenez, je vous donne le numéro 8. Ah, merci.
Attendez, je peux vous laisser mon parapluie aussi?
Éventuellement, bien sûr.
Oui, parce que là, franchement, ouais, ça va me servir beaucoup.
Je vous mets ensemble, hein?
Oui. Merci beaucoup.
Si on veut l'appareil, on va chercher.
Merci. Oui.
Vous savez combien de temps que vous travaillez ici à la maison de Victor Hugo, Myriam?
Maintenant, ça va faire à peu près 12 ans. 12 ans cette année.
Rebonjour, messieurs, dames.
Ces 2 tickets-là vous permettent d'aller dans l'exposition Les Misérables. Donc vous commencez par le 2e étage et vous poursuivrez par le 1er étage. L'audioguide vous permet d'avoir plus d'explications dans l'appartement de Victor Hugo. Il a vécu pendant 16 ans, de 1832 à 48. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser.
Bonne
visite, messieurs, dames. Ici, nous sommes dans la salle à manger de Victor Hugo. Cette dame, elle est très pressée par le temps. Parce qu'elle est à peine rentrée dans cette pièce qu'elle retourne déjà dans l'autre pièce. La dame de dos, elle essaye de prendre des photos alors qu'on n'a pas le droit. Excusez-moi. Bonjour madame, les photos sont interdites. Il y a des personnes qui sont complètement ignorantes. On fait partie des meubles, en fait, parfois, pour eux. Donc, on n'existe pas. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de toucher, parce qu'on ne leur fera peut-être pas de réflexion. Mais on est là, on existe, et on leur dit, ne touchez pas, s'il vous plaît. Déjà, la première des choses, c'est quand on rentre dans une salle, on dit bonjour. Donc, nous-mêmes, nous le disons au public quand il arrive. Bonjour, messieurs, dames. Ben oui, on est là, madame. On vous a dit bonjour. Ça fait mal, mais bon, on le garde pour nous, c'est pas grave. Tant pis, ils repasseront et puis peut-être qu'ils nous feront un sourire.
Parfois, vous y repensez à ça ?
Oui. Le soir, dans le RER, quand je rentre chez moi, j'y pense, ouais. Ouais. Je me dis, pourquoi il n'y a pas de regard ? Pourquoi il n'y a pas d'échange ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors là, nous rentrons dans la chambre où Victor Hugo est mort.
Vous aimez bien cette pièce ?
Moi, j'aime bien, ça va, je la trouve agréable, avec ses bougies qui scintillent, ça va, elle ne me dérange pas trop. Souvent, au mois de juin, juillet, août, c'est toujours la même personne qui revient et qui se sent inspirée de Victor Hugo. Elle sent comme un état d'esprit, une âme. C'est assez impressionnant de l'entendre parler à chaque fois. Elle vient tous les étés à la même période et elle est très, très, très inspirée par le côté mystique de Victor Hugo. Et quand elle arrive dans cette pièce, elle passe et repasse, sans jamais s'arrêter. Et puis elle s'en va comme elle est venue. Depuis 3 ans, elle est venue tous les étés. J'attends l'été prochain. C'est le vent que nous entendons. Le vent assez prenant aujourd'hui. Assez stupéfiant, surtout dans cette pièce-là.
Si vous l'aviez rencontré, Victor Hugo, qu'est-ce que vous lui auriez demandé ?
De faire un poème sur moi. Voilà. I'm sorry, where did you come from ? Where do you come from ? Where do you come from ?
Pardon ?
De quel pays vous êtes ?
Nous sommes chinois.
Ni hao. Vous êtes inspiré par la maison de Victor Hugo ?
Oui, oui, oui. Je peux visiter un peu avec mes amis.
Ah, oh, c'est bien.
Oui, depuis quand j'étais petite, regardais le livre de Victor Hugo beaucoup. Notre-Dame, quoi, oui.
Ah, c'est bien. Donc vous connaissez Notre-Dame de Paris,
oui,
les Misérables.
Oui, Notre-Dame de Paris, oui, oui, oui.
Voilà, oui. Ouais. Comment on dit au revoir en chinois ?
Zaijian.
Tchè. Merci.
De gens qui arrivent là.
Oui, c'est normal, c'est l'heure. Hein.
Celle qui arrive là-bas, qui est toute seule.
Elle est fatiguée puisqu'elle s'appuie légèrement, donc elle est très... Est-elle vraiment seule ou pas seule ? Elle a un visage si triste. Vous savez, on s'aperçoit que les gens deviennent comme des livres ouverts. En fait, on voit leur tristesse. Chaque personne a sa propre histoire à lui-même à raconter. En partant, on laissera toujours quelque chose derrière nous.
Vous aussi, vous êtes triste ?
Ben oui, je suis triste, mais ça n'empêche pas de sourire dans la journée. Vous savez, on peut sourire tout en étant malheureux. Bien sûr. Moi, j'avais une maman qui a élevé 6 enfants, donc ça a été très, très difficile. Il fallait travailler très jeune, il fallait manger, il fallait faire beaucoup de choses. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans, comme mes frères et sœurs, et puis on n'a pas pu poursuivre des études comme les autres qui ont cette chance-là aujourd'hui, et d'avoir leurs parents aujourd'hui. Et ce qui est le plus difficile dans la vie, c'est de ne pas pouvoir manger, de ne pas savoir si on va manger le soir même. Oui, bien sûr, j'ai connu ça. Bonjour. Where do you come from?
Japan.
Arigato. Vous parlez un petit peu français? Ah, vous aimez beaucoup Victor Hugo?
Non, pas seulement le Les Misérables. Oui. J'ai lu.
Nikai, appartement Victor Hugo, Ikai, exposition Misérable.
Ah d'accord,
Misérable. Que pensez-vous de mon japonais?
Pardon?
Que pensez-vous de mon japonais Arigato?
Ah, oui, c'est...
Vous m'avez comprise?
Oui, oui, bien sûr. Oui. Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu. Voilà.
Quel est le moment de la journée que vous préférez?
Le soir. Le soir, quand je rentre chez moi. Je me déshabille, je suis complètement différente. Je chausse mes baskets, mon jean et je vais sortir mon chien. Puis on va courir quelques moments ensemble. Voilà. Je me retrouve moi-même, Myriam.
Cette salle à manger aux boiseries foncées et à l'atmosphère médiévale a été conçue pour Juliette. Elle porte bien sûr la griffe de Hugo, un bibeloteur pour qui chaque meuble et chaque objet composait un poème qui n'avait pas besoin de mots. Matin droite, par exemple, le bahut, acheté chez un antiquaire de Lille, a été transformé. Victor l'a orné de vitraux, sans doute en se voulant un voyage de l'air comme les mêmes de mon bataille. Le roman de rock, l'histoire, reçu, quasi.
Ticket. Thank you very much.
Photo? No, no.
Yes, but no flash. You can take picture, but without flash.
It's in the, without in flash. The machine.
No flash, please. Pas de flash, s'il vous plaît. C'est le béaba de l'agent d'accueil et de surveillance. Si vous ne savez pas dire pas de flash, s'il vous plaît, c'est pas la peine de postuler en qualité d'agent.
Vous êtes habillé en noir avec un petit gilet vert. C'est comme ça qu'on vous reconnaît en tant qu'agent d'accueil et de surveillance.
Et on a un badge, mais en fait, le gilet vert, voilà, c'est notre marque de fabrique du musée Rodin. Ouais, ouais.
Est-ce que vous regardez souvent les visiteurs passer, Christophe?
Pas vraiment. J'ai plutôt un regard en permanence intérieur sur les choses. Alors là, on est dans la salle du baiser, au musée Rodin, au rez-de-chaussée. Le baiser, on nous le demande souvent, quoi, en fait. Ça fait partie quand même des grandes œuvres de Rodin, et surtout le Kiss, pour tout ce qu'il représente vis-à-vis de l'amour et tout ça, quoi, en fait.
Vous l'aimez bien, vous, cette sculpture?
Moyennement. C'est pas une de mes préférées. Non. Peut-être qu'elle est trop classique dans la forme, quoi, en fait. Voilà. C'est une genre d'attitude qu'on a vue et revue. Et voilà, pour moi, il n'y a rien de surprenant, ni rien de... Ça ne représente pas une forme d'absolu.
Depuis combien de temps vous êtes au musée Rodin, vous, Christophe?
Là, ça va faire 3 ans au mois de juillet. Ouais. 3 ans au mois de juillet. Mais en fait, je veux dire, j'avais pas plus envie de faire agent d'accueil qu'autre chose, quoi. Trouver un vrai métier, ça a toujours été pour moi un problème, quoi. Ouais. J'ai toujours eu l'impression de sacrifier quelque chose en m'engageant dans une activité. J'ai toujours eu l'impression de laisser une part de moi-même à côté. Ce qui fait que je me retrouve très bien dans la position d'agent d'accueil et de surveillance, dans la mesure où ça procède un peu du non-engagement, le fait d'être ici tout entier, dans l'attente peut-être un peu qu'il se passe quelque chose. Voilà, ça ne m'engage pas. En tout cas, je me sens pas coupé en deux, je ne me sens pas sacrifié, ou je reste entier. Ouais. Ouais, très important.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant?
Oh, j'ai fait plein de métiers. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait livreur de produits pharmaceutiques. J'ai même fait du maraîchage en Normandie. J'ai un diplôme d'analyste robot-rameur, dont je ne me suis jamais servi, parce que je ne voulais pas m'engager à fond là-dedans. Je l'ai un peu fait par défaut, la formation. Et donc, voilà, quoi. En fait, si je m'engage, c'est un engagement total, quoi. Ce serait plutôt de l'ordre de la passion ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est un passionné de la vie en général, donc il faut tout prendre ou ne rien prendre du tout. Si j'ai à prendre, ce serait plutôt la création, quoi. L'acte d'écrire, c'est un témoignage et on témoigne de tout ce qui peut nous être arrivé. On lâche rien, quoi.
Vous écrivez alors ?
Non, on peut pas dire ça. Non. J'ai un manuscrit de 90 pages à peu près et quelques textes autour. Et ça fait une dizaine d'années que j'ai pas écrit. Et je crois que j'ai un peu perdu la foi, quoi. Je me sens plus une volonté assez forte pour pouvoir changer les choses, quoi, aujourd'hui à l'heure qu'il est, quoi. Alors tout le problème pour moi, c'est un peu cette situation de l'attente entre savoir si sous les braises il y a encore un feu qui couve et il suffit de souffler dessus pour s'enflammer de nouveau, ou alors est-ce que c'est définitivement perdu à tout jamais. Ça c'est la question, quoi, en fait. Quand je dis que je suis dans l'attente, c'est pour ça que le travail d'agent d'accueil me convient bien. Des fois, je me dis c'est vraiment trop dommage, quoi. Il y a vraiment des choses à dire. Des fois, ça me prend. Je dis c'est pas possible, quoi. Et puis, je me dis aujourd'hui à quoi ça sert de continuer à vivre si c'est pour pas justement finir ce travail d'écriture. Ouais.
Comment ?
Il y a des enfants qui arrivent pour suivre la conférencière. Hein.
C'est ça. Alors, quand vous regardez les corps de la femme, dans quelle position ? Elle est le corps de la femme.
Un peu tordu.
Un peu tordu. Hein? Alors, vous voyez, cette sculpture s'appelle, comment elle s'appelle ? Les baisers. Hein? Alors, pendant un long moment, ça a été une sculpture qui a beaucoup choqué. Ils s'embrassent, mais ils sont tout nus. Alors, ce que j'aimerais bien, que vous vous levez et que vous allez regarder les deux sculptures et essayer de faire les tours de la sculpture.
Qu'est-ce que vous aviez écrit comme histoire ? C'était un roman ou bien des textes
Il y a des textes selon l'inspiration du jour, avec des styles très très différents, dont un que j'ai écrit à Lisbonne d'ailleurs, au dos d'une carte postale. Ce texte il disait « De toute ma vie, je n'ai fait qu'effleurer les choses. Si je les ai touchées du doigt, ce qui en soi n'est déjà pas si mal, je n'ai jamais su les retenir. Je suis un pont entre Dieu et les hommes, entre moi et moi. Le pont est fini. » Mais je n'arrive pas à passer de l'autre bord. Voilà. Non, je pense que je n'ai pas assez la volonté, ni la hargne, ni le point assez serré pour qu'il se produise un déclic, hein, je crois. Ouais, non. On ne va pas se cacher, c'est l'amour quoi, qui est en toile de fond, hein, ça me paraît assez clair. L'histoire est trop belle pour ne pas la raconter, quoi. Il faut la raconter à tout prix. Et on met tout dans l'acte d'écrire, quoi. Voilà.
Ce moment-là, c'était quand vous êtes tombé amoureux ?
Ouais.
Elle était comment, la femme que vous aimiez ?
Très naturelle.
Casquette marron qui s'est trop bien chaussée.
Très naturelle. C'est une déesse au naturel, quoi. Quelque chose de... Ça fait partie des intouchables, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une image qu'on ne peut pas détruire, quoi. Voilà, c'est plus fort que tout.
J'attends ma relève.
C'est un personnage qui aide à vous transcender quelque part. Qui aide à vous sortir de votre petite cocon, de votre petite pensée.
C'est sa loi.
Marie-Thérèse qui devrait vous relever.
Ça, c'est les relèves qui se font attendre quand les agents ne sont pas tout à fait à l'heure. Donc, c'est pour en venir à la personne, quoi. Ouais, ouais, je crois que si j'ai pas peur de mourir aujourd'hui, c'est grâce à elle, quoi, voilà, c'est tout. Si je l'avais pas rencontrée, je serais dans un état pitoyable, je pense. Ah ouais. Donc là, je peux mourir. À la limite, je dirais que ça m'est égal, quoi. Ce qui devait être fait a été fait, quoi.
Vous avez quel âge, Christophe ?
46. 46, je réfléchis parce que des fois je ne sais plus, entre 47, 46, 45, des fois j'oublie.
Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ?
Je m'imagine bien être ici encore, oui, sans difficulté. Il y a une forme d'acceptation et puis finalement de confort, enfin pour moi personnellement, ouais, non. Des fois j'ai des rêves de partir comme ça et c'est vrai que ça vous titille et puis de vivre un peu en globe-trotteur qui n'a pas pensé partir comme ça un peu à l'abordage avec son sac à dos là, puis un crayon et une feuille à la main, mais ouais, si. Je pense que notre quotidien est quand même beaucoup plus basique, beaucoup plus normal. Enfin, il nous emmène pas toujours dans les nuages. Hein. À tous les agents, on a perdu une écharpe bleue dans la salle du baiser.
Monsieur au droit.
Monsieur au gauche.
Monsieur au musée.
Moi, c'est sorti expo. Bonjour, peut-être avez-vous un titre d'activité, une carte du jour, un musée en passe ?
Ça paraît, c'est ça.
Where is it ? Just burn your left. Alfred, you're welcome, sir. Là, vous avez l'atelier en descendant sur la gauche, là. Vous avez le studio outside, just on your left. Je m'appelle Gérard, je suis au musée de la Croix depuis mars 2002, donc ça va faire bientôt 7 ans. Donc le musée de la Croix, donc, c'est la dernière demeure de la Croix. Les pièces que l'on visite sont donc l'entrée.
Alors là, dans l'entrée, on voit le portrait de la Croix, justement. Celui donc, qui est connu, qui avait sur les billets de 100 francs avant.
De la Croix, il n'a pas l'air rigolo, quoi. Franchement. Apparemment, il ne s'aimait pas. Et même à partir de 24 ans, truc comme ça, apparemment, il voyait son image, ça lui faisait peur. Ensuite, on passe par le salon. Donc là, on a la nouvelle acquisition du musée, qui est un Roméo et Juliette, qui date de... C'est daté début des années 50, 1850. J'aime beaucoup ce tableau. Comme la plupart des tableaux de Delacroix, c'est du tragique. Quand on a la mort de Sardanapa, il y a les esclaves, les chevaux qui se font tuer, le feu dans le fond, les massacres d'Ossiaux, donc... C'est le résultat des massacres, la liberté guidant le peuple, elle marche sur des morts. C'est assez tragique. Il y a des morts partout, donc là, ils vont mourir. Mais si on fait l'abstraction que c'est Roméo et Juliette, je pense que ça pourrait être Brad et Angelina, Nono Nanette. C'est un beau tableau et on voit pas vraiment la mort qui va arriver.
Celui-là, vous le regardez aussi ?
Donc je le vois. Je ne le regarde pas. Regarder, c'est attentif. Et voir, on voit. Pourquoi regarder quelque chose qu'on n'aime pas ? J'aime pas ces trucs tout noir, tout est noir. Bon. On en fait un, ça va, deux, ça va, après... Hein. Bon, là, on le voit un petit peu pensif, apparemment. S'il vous plaît, pour le téléphone, vous téléphonerez à l'extérieur, s'il vous plaît, madame. Vous pouvez sortir juste là et sur la gauche. Merci.
Allô ?
Donc ça va, c'est un portrait où il n'a pas l'air trop antipathique. Il a un peu, regard un peu perdu. Par contre, là, sur les autres, là, il est vraiment... Il n'a pas vraiment l'air commode. Hein. Il se pose, il s'impose, il s'expose. C'est vrai qu'il n'a pas un regard commode. Et, hein, il aurait fallu qu'il se lâche un peu, quand même. De toute façon, il ne s'est jamais marié. Bon, il a eu des maîtresses. On dit qu'il était marié à son art, à sa peinture. Et puis, bon, dans son journal, les quelques extraits que j'ai entendus, il est souvent à critiquer ses homologues et tout. en disant « Ah oui, la peinture, ceci, cela, les couleurs sont pas mal, mais... Hein. » Bien sûr, ce qui m'amuse aussi souvent, c'est on entend les gens, oh, quel bel homme, tu sais, comme ça. Franchement, avec d'autres personnes, on se dit, bon, bah, il n'est pas beau, beaucoup disent quelle prestance, même quel charisme, pourquoi pas. On peut avoir quelqu'un qui n'est pas beau et qui a du charisme. Dans certains endroits qui craquent, donc ça fait.
Il y a des lattes qui grincent plus que d'autres.
Ah oui, 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 il n'y en a pas là, mais je ne sais pas, apparemment. Qu'à fois où on passe, on essaye de retrouver la latte. Hein. On s'amuse un peu avec ça. Non, bah, je ne la retrouve pas. Ça a grincé.
Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose, je refuse cette galerie, c'est la mienne. Si vous me cherchez, je suis toujours posté dans un coin de la salle des mythes antiques, à côté de Vulcain, contrit et contraint de voir sa femme exposée en public, nue sous les zéphyrs, belle à en mourir. Vénus ignore la foule des curieux. À moi c'est pas pareil, il faut bien que je la surveille, je ne peux pas la quitter des yeux. Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Puis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose, je refuse, cette galerie c'est la mienne.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et Les Gardiens de Musée, une émission diffusée pour la première fois le 12 mars 2009, que je vous proposais d'écouter ou de réécouter. Merci à Christophe, au musée Rodin, à Myriam, à la maison Victor Hugo, à Gérard, au musée de la Croix et à la direction des affaires culturelles de Paris. Le reportage était signé Élise Andrieux, réalisé par Véronique Samoëlov avec un coup de main de Marie Placet pour mettre en boîte cette rediff, comme on dit. Je n'oublie surtout pas, bien sûr, Sandrine Chaperon. Et quant à vous, vous pouvez nous envoyer vos réactions, vos commentaires sur notre page franceculture.fr. Donc, au pied sur terre, vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook ou sur Twitter. En attendant de vous lire avec une impatience toujours renouvelée, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture, évidemment.